Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet pour ce nouveau podcast. Le 4 mars dernier, disparaissait à l'âge de 100 ans Javier Pérez de Cuellar, 5e secrétaire général des Nations Unies, qui a dirigé l'organisation de 1982 à 1991. Né à Lima, au Pérou, le 19 janvier 1920, Javier Pérez de Cuellar a dirigé l'ONU après avoir servi 42 ans la diplomatie de son pays. Outre ses missions d'ambassadeur, notamment en Suisse et en Union soviétique, il a été représentant permanent du Pérou auprès des Nations Unies à New York à partir de 1971. Pour nous parler de la longue et riche vie de Javier Pérez de Cuellar, notre invité est Romuald Ciura, universitaire et documentariste. Il revient d'abord sur les premiers contacts qu'il a eus avec l'ancien secrétaire général.
Cela remonte en 2003-2004, lorsque j'avais commencé à travailler sur les Nations Unies, tout d'abord avec un ouvrage sur l'histoire de l'ONU raconté par ses secrétaires généraux et une série télé à la Maison de Verre sur la même thématique. À l'époque, j'avais rencontré tout d'abord Boutros-Boutros-Ghali en premier, ensuite Kofi Annan, Kurt Waldheim, et bien évidemment, l'objectif était d'avoir tous les secrétaires généraux encore vivants. Et Boutros Ghali m'avait introduit auprès de Pérez de Cuellar, qui à l'époque était ambassadeur du Pérou en France. C'est-à-dire qu'après avoir été Premier ministre du Pérou, Javier Pérez de Cuellar s'est présenté à la présidentielle qu'il a perdue, mais il a accepté de servir le gouvernement péruvien en tant qu'ambassadeur à Paris. Ce qui est assez modeste de sa part, ce qui représente bien l'homme. Après avoir été secrétaire général de l'ONU, Premier ministre, il est rare que l'on accepte à 80 ans passés de devenir ambassadeur. Mais vu ses liens personnels avec Jacques Chirac, cela pouvait rendre service au Pérou. Et donc, il avait accepté, bien qu'il soit déjà un petit peu fatigué, mais il y avait été. Et c'est ainsi qu'il m'a reçu donc, à l'ambassade du Pérou à Paris, près du Trocadéro.
Alors, vous avez été l'un des premiers, sinon le premier, à faire une classification des secrétaires généraux, à savoir s'ils étaient plus secrétaires ou s'ils étaient plus généraux. Comment vous positionnez le rôle de Javier Pérez de Cuellar au sein des Nations Unies en tant que secrétaire général ?
Pour moi, les deux visionnaires de l'histoire des Nations Unies demeurent Dag Hammarskjöld et Boutros Boutros-Ghali. Mais si l'on veut parler du secrétaire général qui a été le plus en phase avec sa fonction, je crois qu'il s'agit de Pérez de Cuellar. Pérez de Cuellar est un grand secrétaire général et il est sans doute l'homme qui a le mieux habité le costume du secrétaire général de l'ONU tel qu'il est défini par la charte et tel qu'il se doit être. C'est-à-dire savoir être secrétaire, justement, servir l'institution comme le premier fonctionnaire de celle-ci, mais savoir quand il le faut agir en général. Et je crois qu'à ce jour, Pérez de Cuellar est le seul à avoir presque fait un sans faute.
Alors justement, et ce sans faute, il suit 40 années donc au service de la diplomatie péruvienne, mais aussi au sein des Nations Unies. Il avait une forte expérience en termes de diplomatie. On a du mal à retrouver autant d'années donc au service d'un pays. Est-ce que ce parcours l'a aidé particulièrement à s'acquitter de sa tâche ?
Oui, bien évidemment. Surtout qu'il a servi différents types de gouvernements péruviens. Donc il a eu l'habitude de prendre une certaine souplesse, même vis-à-vis de son propre pays et au niveau des relations bilatérales. Donc, lorsqu'il est arrivé au multilatéral, il avait une expérience assez importante. Et comme vous l'avez souligné, il avait été ambassadeur du Pérou auprès des Nations Unies, à la même époque d'ailleurs que George Bush père, qui était devenu l'un de ses amis, ce qui l'a beaucoup aidé lorsqu'il est devenu secrétaire général dans ses relations avec la Maison Blanche, puisque George Bush était alors vice-président.
Ce qu'on sait moins, c'est que Pérez de Cuellar a aussi, entre son rôle d'ambassadeur auprès des Nations Unies et le rôle de secrétaire général, été représentant spécial dans des conflits ou dans des situations délicates. Je pense à Chypre, je pense à l'Afghanistan. Il a également été secrétaire général adjoint aux affaires politiques. Est-ce que là également, cette expérience lui a permis de mieux jouer son rôle donc, lorsqu'il est arrivé en 82 donc, au siège des Nations Unies comme secrétaire général ?
Bien sûr, et cela sur plusieurs points concernant le dossier Chypre. D'une manière évidente, mais vous parliez du conflit soviétique-Afghanistan. Il est l'un des artisans du traité de paix entre l'Union soviétique et l'Afghanistan en 89, si je ne me trompe. Donc oui, cette expérience, bien évidemment, l'a servi concernant ses sujets et ses dossiers, mais également au niveau des liens personnels qu'il a pu tisser avec certains grandes figures onusiennes de l'époque. Je pense à Brian Urquhart, par exemple, qui est devenu un de ses amis proches et qui était à l'origine du développement des opérations de maintien de la paix, du département des opérations de maintien de la paix. Également, ses amitiés, ses connivences ont aidé Pérez de Cuellar à habiter la fonction dès son départ au 38e étage de l'ONU, de la Maison de Verre, au contraire peut-être de certains de ses prédécesseurs ou successeurs qui ont plusieurs mois de tâtonnement avant de connaître les rouages de la maison.
Javier Pérez de Cuellar aussi a une autre spécificité, c'est le seul secrétaire général à être issu de l'Amérique latine et des Caraïbes. Quelle est la particularité peut-être de cette origine, être du Pérou, d'Amérique latine, par rapport à d'autres candidats qui ont représenté des régions différentes ?
C'est d'être issu d'un petit pays, de par la taille, le nombre d'habitants et l'influence sur la scène internationale. Ses prédécesseurs étaient également issus, on n'est jamais issu des cinq grands, enfin des cinq membres permanents. Un secrétaire général n'est jamais issu des cinq permanents, mais ils sont souvent issus de zones régionales influentes, que ce soit Daga Marshall, même si c'est le nord de l'Europe, c'est quand même l'Europe, que ce soit bon, Trivelli avant Daga Marshall de même, Utant, non, on pourrait comparer cela à Pérez de Cuellar. Kurt Weidam était issu de l'Autriche, un petit pays, mais tellement stratégique, également une zone d'influence. Par la suite, Boutros Ghali, l'Égypte, Kofi Annan moins, mais Kofi Annan est issu du Sérail. Mais pour en revenir à Pérez de Cuellar, le fait d'être à ce moment de l'histoire issu d'un petit pays ayant une influence mineure sur l'échiquier international lui avait dès le départ permis, et même avant d'entrer en fonction, de prendre conscience de l'importance des relations multilatérales et des rapports multilatérales. Un pays comme le Pérou ne peut véritablement exister, surtout à l'époque, uniquement par le bilatéral. Donc Pérez de Cuellar est arrivé à l'ONU de par l'expérience dont nous venons de parler et de par son expérience en tant que diplomate péruvien avec une grande appréhension de l'importance des rapports multilatéraux.
Alors justement, donc, il a été ambassadeur, on le rappelle, pour le Pérou, notamment en Suisse, mais aussi en Union soviétique, en Pologne et au Venezuela, à une époque, donc, il était secrétaire général donc, de 82 à 91, où on vit en fait la fin de la guerre froide, des années charnières, et donc la suite de cette tension particulière entre les deux gros blocs. Est-ce que là également, ces expériences et surtout cette époque charnière l'ont aidé à mener à bien ses activités et son mandat ?
Oui, et cette expérience l'a aidé à être le parfait secrétaire général pour la fin de la guerre froide. Comme je le disais précédemment, il a contribué aux accords de paix entre l'Union soviétique et l'Afghanistan, les talibans à l'époque. Donc, il a contribué également à un apaisement avant Gorbatchev entre la Maison-Blanche, et cela de par ses liens personnels avec George Bush et l'Union soviétique. Et il a été un interlocuteur particulier pour Gorbatchev au début de la perestroïka et des grandes réformes que ce dernier allait faire en Union soviétique.
Alors, si on prend la liste des conflits sur lesquels il est intervenu en tant que secrétaire général, il y a notamment Chypre, il y a la guerre des Malvines-Falkland, entre donc le Royaume-Uni et l'Argentine, il y a le conflit Irak-Iran en 88, il y a, on parlait donc de l'Afghanistan en 89, et là, donc, le retrait des Russes, il y a le Nicaragua, il y a le Cambodge, il y a la Namibie avec l'indépendance donc de ce pays d'Afrique australe, et puis il y a El Salvador, jusqu'au bout d'ailleurs, Pérez de Cuellar s'est battu pour essayer de faire prévaloir la paix. Donc toute cette série de crises et de tentatives de paix, qu'est-ce que ça démontre ? Qu'est-ce que ça révèle ?
Ça démontre une volonté et aussi un courage. Sur le plan politique, vous parliez de la Namibie. L'action de Pérez de Cuellar sur ce dossier a été cruciale, mais pas uniquement pour ce pays. Son action a permis d'accélérer le mouvement qui a conduit à la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Et là, on peut parler d'une grande influence du secrétaire général de l'ONU. Il avait très bien compris que politiquement, il n'avait pas une grande marge de manœuvre. Et bien avant Kofi Annan, il avait su revêtir ses habits de pape laïque, comme on allait surnommer le secrétaire général de l'ONU un peu plus tard. Son ouvrage de mémoire qui s'intitule « Pèlerin de la paix » est justement bien titré pour cela. Au niveau de l'action par elle-même et du courage politique, ce qu'il a fait en Irak lors de la première guerre du Golfe, en tout cas en amont de celle-ci, est assez important. Combien de secrétaires généraux de l'ONU ont pu parfois être absents, n'ont pas eu le courage de tenter de s'imposer comme il l'a fait à ce moment-là? L'engrenage était parti, Saddam Hussein refusait de retirer ses troupes du Koweït, l'ultimatum était en marche, Pérez de Cuellar a fait fi des avertissements de la Maison Blanche ou d'autres membres permanents, il a pris un avion et il s'est rendu à Bagdad pour rencontrer Saddam Hussein. Bien évidemment, celui-ci, obtus, n'a rien voulu entendre, mais néanmoins, il a essayé. Il a essayé jusqu'au bout de jouer de son influence, personnellement, physiquement, en se rendant dans une zone à risque quand même, ce que certains secrétaires généraux n'ont pas fait ou ne font pas.
L'autre particularité de cette période, c'est qu'il n'y avait pas encore une médiatisation, notamment du secrétaire général des Nations Unies, même si ça n'empêchait pas certains d'entre eux d'avoir une sorte d'aura, une sorte donc de rayonnement. Est-ce que là aussi, c'est une caractéristique qu'on peut mettre en comparaison avec des successeurs, je pense bien sûr à Boutros Ghali, mais encore plus peut-être à Kofi Annan, par exemple, ou aujourd'hui avec Antonio Guterres?
Oui, la médiatisation du secrétaire général était quasi inexistante. On parlait de lui lorsqu'il y avait un fait important, on pouvait le nommer au cours des actualités, mais le grand public ne connaissait pas le nom du secrétaire général et très peu connaissait même vraiment l'existence de la fonction. Néanmoins, l'influence était très grande et Pérez de Cuellar a prouvé dans une période charnière qui est celle de la fin de la guerre froide que la recherche à tout prix des médias, la course aux médias, n'était pas vraiment ce qui pouvait conduire à une influence politique majeure.
Par rapport à l'aspect humain, vous avez rencontré donc Javier Pérez de Cuellar plusieurs fois pour mener à bien vos enquêtes, vos documentaires, etc. Comment il était humainement, puisque c'était une époque où il avait quitté le secrétariat à New York, il était notamment à Paris. Comment, en termes humains, vous avez vécu cette rencontre?
Oh, c'était un homme très simple. C'était un homme très simple, modeste, conscient de ses qualités intellectuelles, mais abordable et très plaisant. J'ai eu le bonheur de voyager avec lui, des petits voyages en Suisse, en Belgique, pour la promotion du livre à la Maison de Verre, promotion à laquelle il s'est prêté d'une manière très sympathique en allant sur des plateaux de télévision pour moi ou en m'accompagnant, alors que lui n'avait absolument pas besoin de ça, mais moi j'avais besoin d'une telle star pour vendre mon bouquin. C'était un homme très sympathique, très modeste et qui surtout ne cherchait pas le conflit inutile. Il n'y avait chez lui aucune frustration. Une petite anecdote personnelle. Nous étions à Genève pour justement la promotion du livre et de la série télévisée où un épisode lui est consacré. Le soir était prévu un cocktail avec projection, etc. Et durant la journée, il était resté seul, il avait décidé d'aller visiter les Nations Unies, le Palais des Nations, qu'il n'avait pas revu depuis son départ. Au lieu de me dire « Tiens, Romuald, pouvez-vous me prendre un rendez-vous » ou d'appeler lui-même le bureau du directeur général du Palais des Nations, il a décidé de se présenter lui-même au guichet. Lui-même m'a raconté l'anecdote le soir même. Il arrive, il se présente. Évidemment, il n'avait pas de badge, il n'avait pas... Lorsqu'il était secrétaire général et surtout lorsqu'il était diplomate, les choses étaient très différentes dans les années 70. On rentrait plus facilement aux Nations Unies. Les vigiles lui disent « Ah, mais monsieur, vous n'avez pas de badge ?» Il dit « Ah, mais je suis Javier Pérez de Cuellar, l'ancien secrétaire général de l'ONU. » Ils ont été très polis et lui ont peut-être répondu « Et nous, on est la reine d'Angleterre, je ne sais pas. » Mais ils l'ont rembarré. Plus ou moins poliment, ils auraient quand même dû vérifier quand vous avez un monsieur de 80 ans qui prétend être l'ancien secrétaire général, au moins. Mais bon, bref, ils lui ont demandé de quitter les lieux. Et Pérez de Cuellar, au lieu de faire un scandale, de râler, est parti très, très bien, en se disant « Bon, bah, c'est pas grave, je reviendrai un autre jour ». Cela démontre la personnalité de l'homme. Moi, j'aurais râlé, j'aurais demandé. Boutros Ghali aurait fait un scandale. Javier Pérez de Cuellar, à quoi bon s'embêter à ça? Je crois que cette petite anecdote démontre ce que fait l'homme.
Voilà, c'est avec le documentariste Romuald Sura que se referme ce magazine, préparé cette semaine par Jérôme Longuet et Florence Westgaard. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet nos podcasts, mais aussi le journal d'ONU Info, ONU Info qui bien sûr est aussi présente sur Facebook, Twitter et SoundCloud. En attendant, merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.